Alors, j'ai le plaisir d'être la modératrice de la dernière conférence de la journée. Véronique Leroux et Guillaume Lecoin, dont vous trouverez un riche CV dans le document 6 juin. Je ne vais pas le refaire parce qu'on va gagner un peu de temps. Vont nous amener sur le terrain de la science. Le sujet de leur conférence, que veulent faire les scientifiques face au créationnisme, me ramène dans les plus tout au début de ma carrière, quand j'étais encore professeur de mathématiques et j'enseignais à l'École normale supérieure de Rabat. Et j'avais été très étonnée à cette époque de voir que parmi le corps professoral, les plus fervents croyants étaient les professeurs de mathématiques. Alors, scientifiques d'un côté, croyant de l'autre, les deux termes sont-ils antithétiques? Cela nous amène au débat contradictoire entre évolutionnistes et créationnistes qui existe au sein de toutes les religions monothéistes à l'heure actuelle. Nos deux conférenciers vont s'attacher aujourd'hui à nous montrer comment la science peut être rabaissée au rang de discours hypothétique et comment un discours idéologique peut être érigé au rang de science. Je leur laisse tout de suite la parole parce qu'on a beaucoup tardé.
Merci beaucoup. Je vais commencer par une petite introduction sur l'importance de distinguer ce qui est d'ordre de la science, du discours scientifique et ce qui ne l'est pas. Et je vais vous proposer de faire un retour sur le XVIIe siècle, le milieu exactement du XVIIe siècle, moment où a été énoncé le postulat d'objectivité. Alors je sais que depuis, il y a beaucoup de débats autour du terme objectivité. Vous en avez fait mention tout à l'heure, vous en avez fait référence, mais en tout cas, moi, je vais parler du postulat d'objectivité tel qu'il a été énoncé par Descartes et qui donne un sens clair et distinct de ce terme. Alors, avant cela, pourquoi s'intéresser à la formulation du postulat d'objectivité aujourd'hui, hein, pourquoi revenir sur le milieu du XVIIe siècle et surtout pourquoi revenir sur la proscription qu'a donnée Descartes, hein, il a demandé de proscrire la recherche des causes finales en science. Finalement, la science, 3 siècles et demi se sont passés, la science ne s'est-elle pas libérée depuis l'énoncé du postulat d'objectivité par Descartes et un petit peu avant par Galilée, du joug de la théologie et de la religion? Ces deux penseurs n'ont-ils pas proscrit dans l'activité scientifique la considération des fins? Selon le postulat d'objectivité, la science se déploie en effet à partir du refus systématique de considérer comme pouvant conduire à une connaissance vraie toute interprétation des phénomènes en termes de cause finale, de dessein, de projet. La science se pose en s'opposant au raisonnement finaliste. Elle dit non à la solution de facilité qui consiste à renvoyer un problème non résolu ou mal posé à Dieu, à la volonté de Dieu, aux voies impénétrables de Dieu que Spinoza nomme l'asile de l'ignorance. Alors pourquoi s'intéresser au problème de la science et de Dieu? Parce que d'aucuns voudraient nous faire croire que la science peut se faire sans admettre ce postulat d'objectivité. D'aucuns voudraient nous faire croire que la nature, que la science, pardon, peut tenir un discours et se construire sans refuser systématiquement que la nature puisse porter un projet, celui précisément de Dieu qui l'a créé. Ces mêmes travaillent à un complet renversement de raisonnement en remettant en question le postulat d'objectivité que Jacques Monod nomme la pierre angulaire de la méthode scientifique dans le hasard et la nécessité. Cela donc vise à fragiliser la science et, comme vous le disiez en introduction, à la rabaisser au rang de discours hypothétique, tandis qu'ils veulent ériger un discours idéologique au rang de science. Et cette double opération, ils entendent la mener sur le terrain délicat de la biologie et plus précisément de la théorie de l'évolution. Les créationnistes, et là encore je suis d'accord sur l'idée que ce ne sont pas tellement les catholiques comme vous le disiez tout à l'heure, mais plutôt les évangélistes qui posent un gros problème, surtout en Suisse. En France, on est peut-être un petit peu moins embêtés, mais en Suisse, en tout cas, on l'est. Les créationnistes, nommons-les, cherchent ainsi à idéologiser la science, c'est-à-dire à la détruire en la faisant entrer dans un débat idéologique entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui refusent que l'activité scientifique interfère avec la question de Dieu. Et je voudrais tout de suite dire que le débat n'est pas d'ordre théologique, mais d'ordre idéologique. Il ne s'agit pas de faire, pour les créationnistes, de faire œuvre de théologiens, ce qui les obligerait à s'inscrire dans telle ou telle théologie juive, musulmane ou chrétienne. Non, leur stratégie est tout autre. Ils récupèrent de la tradition philosophique de l'âge classique ce qu'on pourrait appeler le dieu des philosophes, qui a pour fonction principale de fonder la science et de lui fournir tous les principes métaphysiques nécessaires à son activité, comme le principe d'économie des causes, le principe des simplicités de voie de la nature, le principe de non-contradiction, le principe de causalité, etc., le principe de l'uniformité du cours de la nature, etc. Donc il récupère ce dieu des philosophes pour montrer qu'il faut lui redonner vie, hein, et, alors que les savants avaient œuvré pour justement couper la science de Dieu. Alors, ils effacent ainsi 4 siècles de philosophie critique pour faire ressurgir l'argument du dessein que Voltaire résume parfaitement en ces termes: l'horloge prouve l'horloger. Du reste, leur intention est manifeste dans le nom qu'ils donnent à leur mouvement, qui est né aux États-Unis mais qui se répand partout en Europe, Intelligent Design, dessin intelligent, nom qui fait explicitement référence à l'argument du dessin, raisonnement finaliste qui, à partir du constat de l'ordre de la nature, infère qu'il y a un principe d'ordre à cette nature, un principe intelligent créateur de cet ordre, qui est Dieu. Leur stratégie est redoutable car ce sont des fins connaisseurs de la rhétorique et de parfaits démagogues. Ils n'hésitent pas à se parer du masque de la science pour imposer leur conception fondée non sur la connaissance objective mais sur la volonté de domination de la foule, par définition manipulable. Leur cible privilégiée, et Guillaume va en parler plus avant tout à l'heure, est la théorie darwinienne de l'évolution. Bien loin de considérer cette théorie comme scientifique, ils la tiennent pour une hypothèse qu'il faut évaluer à l'aune d'autres hypothèses qu'ils présentent comme tout aussi probables, en premier lieu celle du créationnisme. Ils considèrent donc comme équiprobable ce qu'ils appellent la théorie darwinienne de l'évolution qu'ils ont tôt fait de nommer hypothèse, et l'hypothèse créationniste qu'ils ont tôt fait de nommer théorie. Ainsi, ils veulent rendre hypothétique la science et rendre scientifique une idéologie. Ce faisant, ils entreprennent de détruire la science puisqu'ils suppriment le critère de distinction de la science et de ce qui n'est pas la science. Ils détruisent le postulat d'objectivité, marqueur justement de cette différence de nature entre la science et tout autre raisonnement ou argumentation. Mais les créationnistes, dans leur volonté de détruire la science, ne se contentent pas de brouiller les cartes. Ils vont, étape suivante, jusqu'à introduire l'idée, en mettant sur le même plan la théorie de l'évolution et l'hypothèse créationniste, que prendre la voie darwinienne ou prendre la voie créationniste sont deux orientations possibles qui s'offrent aux savants et surtout à l'enseignant et aux élèves qui écoutent l'enseignant, et deux voies donc qui ont tout autant de légitimité l'une que l'autre. D'où il conclut qu'il y a une science de l'évolution pour athée, la théorie darwinienne, donc qui devient bien vite une hypothèse, et une science de l'évolution pour croyants, l'hypothèse créationniste. Et non content d'avoir ruiné donc la distinction entre croire et savoir, pour instiller de l'idéologie au cœur même de la science, il procède à l'étape suivante. Il s'ingénie à montrer que la science pour croyants est plus légitime que la science pour athées, de manière à ce qu'on renonce définitivement à enseigner la théorie darwinienne. Alors les enjeux de ce mouvement idéologique, sont extrêmement graves. Pourra-t-on continuer à enseigner Darwin dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées et les universités, ou devra-t-on enseigner uniquement la prétendue science recommandable? Et ce mouvement, donc, je crois qu'on est plusieurs à le prendre au sérieux parce qu'il est soutenu par des réseaux très puissants et très bien organisés, qu'il dispose d'un pouvoir financier considérable, qui, joint au pouvoir de la rhétorique et de la sophistique, facilite la manipulation de la foule et de l'opinion. Alors face à ce danger, il me semble utile de revenir à l'histoire des sciences et particulièrement d'étudier le moment de la formulation du postulat d'objectivité pour enquêter sur la manière dont la science s'est construite par l'affirmation de son autonomie et de son indépendance à l'égard de l'argument du dessin et du raisonnement finaliste en général. Mais on verra que la science, la construction de la science ne s'est pas faite sans résistance de la part des savants eux-mêmes. Alors, c'est un point, je pense, qui est important à souligner. Il faut du temps pour que le postulat d'objectivité, énoncé par Descartes en 1644, s'impose en science. Plus d'un siècle plus tard, des savants éminents comme Euler ou comme Maupertuis brandissent les lois qu'ils découvrent en mécanique ou en optique comme des preuves de l'existence de Dieu. Et pourtant, c'est plus d'un siècle après Descartes. Alors, c'est cette mise en place des droits séparés de la science et de la théologie. Je reprends ici l'expression que Pascal emploie, Pascal qui a été aussi un penseur tout à fait extraordinaire justement pour penser cette séparation de la science et de la théologie, et qui parle des droits séparés hein, dans la préface au traité du vide. Je voudrais donc retracer cette énonciation du postulat d'objectivité pour nous donner aujourd'hui les moyens intellectuels de contrer le mouvement pernicieux du créationnisme. Alors donc je vous propose de revenir en arrière en 1644, au moment où Descartes publie les Principia Philosophiae, texte latin qui signifie principe de la philosophie. La traduction française date de 3 ans, apparaît 3 ans plus tard. Donc je vous donne la traduction française de l'abbé Picot. Voici ce que Descartes écrit dans l'article 28 de la première partie des principes de la philosophie. Donc le titre, qu'il ne faut point examiner pour quelle fin Dieu a fait chaque chose, mais seulement par quels moyens il a voulu qu'elle fût produite. Commentaire, enfin développement plutôt. Nous ne nous arrêterons pas aussi à examiner les fins que Dieu s'est proposées en créant le monde, et nous rejetterons entièrement de notre philosophie la recherche des causes finales. Car nous ne devons pas tant présumer de nous-mêmes que de croire que Dieu nous ait voulu faire part de ses conseils. Mais le considérant comme l'auteur de toutes choses, nous tâcherons seulement de trouver par la faculté de raisonner qu'il a mise en nous, comment celles que nous apercevons par l'entremise de nos sens ont pu être produites. Et nous serons assurés par ceux de ces attributs dont il a voulu que nous ayons quelques connaissances, que ce que nous aurons une fois aperçu clairement et distinctement appartenir à la nature de ces choses, à la perfection d'être vrai. Alors, selon le postulat d'objectivité, voici ce que dit Descartes, le propre de la philosophie ou de la science, hein, puisque Descartes emploie le terme philosophie dans le sens de savoir, hein, les branches du savoir, et donc il distingue la physique qui est le tronc de toutes les branches qui sortent de ce tronc, qui est réduit à 3 principales, la mécanique, la médecine et la morale, mais une morale dont il ne dira jamais un mot, puisqu'elle suppose qu'on soit omniscient pour y accéder. Selon ce postulat d'objectivité, le propre de la philosophie et de la science donc, et son refus de se demander pourquoi ou à quelle fin, et par conséquent aussi son refus de mettre en œuvre la méthode de recherche qui répond à cette question, c'est-à-dire la méthode de recherche par les causes finales. Ce refus, Descartes l'énonce sous l'égide du Dieu créateur de toutes choses, ce qui veut dire que la séparation des domaines de la foi et du savoir se fait au bénéfice des deux. Pour le philosophe, c'est en effet être présomptueux, arrogant et anthropocentrique que de croire que l'être humain puisse connaître les desseins ou les fins que Dieu s'est proposé dans sa création. C'est même en quelque sorte lui manquer de respect, puisque en prétendant pénétrer les desseins de Dieu et son plan d'organisation de l'univers, on gomme la distance infinie qui sépare le créateur de ses créatures. Selon le postulat d'objectivité, le propre de la science est de privilégier le questionnement sur le mode de production des phénomènes,